Émilien Verdon.
La conférence sur la question palestinienne s'achève au siège des Nations Unies à New York. Dans leur déclaration finale, les participants, dont le Royaume-Uni, ont réaffirmé leur engagement pour la solution à deux États. Ils ont également condamné les attaques du 7 octobre et appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages. La Suisse était représentée à New York par Monika Schmutz-Kirgöz du DFAE. Si le Conseil fédéral n'est pas encore prêt à reconnaître un État palestinien, elle a souligné l'importance de la tenue de cette réunion, surtout dans le contexte actuel.
Au milieu de l'été, autant de ministres qui viennent ici à New York, et ça souligne l'importance et quand même ce momentum. Pour nous, c'était important parce qu'en fait, on a pu redire ce qu'on dit depuis le mois de mars, c'est que le blocus humanitaire à Gaza est inacceptable. On a pu le redire, c'est plus ou moins 120 pays qui l'ont répété. Il y a une urgence absolue, je veux dire, on est confronté à une famine. La communauté internationale l'a souligné et a encore une fois dit à Israël, il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que l'aide humanitaire puisse aller partout dans la bande de Gaza.
Une alerte au tsunami ce matin dans le Pacifique. Un séisme de magnitude 8,8 s'est produit au large de la péninsule du Kamtchatka dans l'extrême-orient russe. Une ville a été inondée. Les côtes de certains pays et îles comme Hawaï ou le Japon ont été évacuées. Le Japon où les employés de la centrale nucléaire de Fukushima ont été placés en sécurité. Des vagues de 1,30 m ont touché l'archipel. En Grèce, les incendies sont un phénomène saisonnier qui s'intensifie ces dernières années sous l'effet du changement climatique. Depuis l'an dernier, Athènes a donc décidé de complètement revoir sa doctrine de lutte contre le feu pour mieux faire face à la menace récurrente des flammes. À Athènes, Joël Brunner.
Presque chaque été, au cœur de la saison des incendies, le gouvernement grec avait coutume d'essuyer des critiques sur le manque d'anticipation face à des feux pourtant cycliques. En 2023, la Grèce a même connu le plus grand incendie jamais enregistré en Europe, avec plus de 90 000 hectares partis en fumée dans la région de Lévros, près de la frontière turque. Depuis, Athènes a donc totalement revu sa copie. Investissement technologique, notamment dans les drones thermiques, et réaction la plus immédiate possible au moindre départ de feu pour éviter tout embrasement. Obligation par ailleurs de débroussaillement pour les citoyens et meilleure interopérabilité entre les différents acteurs, élus, gardes forestiers, militaires ou encore pompiers. Des pompiers grecs qui sont cette année 18 000, un nombre record, 15% de plus qu'en 2022. Les feux, il y en a bien sûr cette année encore, plusieurs dizaines de départs rien que le week-end dernier. Mais l'objectif des autorités, c'est d'éviter un nouveau Mati, du nom de ce village côtier où les flammes avaient fait 104 morts il y a maintenant 7 ans. Joël Brunner, RFI pour RTS, Athènes.
La Suisse, suspendue à la question des droits de douane avec les États-Unis 2 jours après l'accord entre l'Union européenne et le président américain Donald Trump. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Sutter, se montre relativement optimiste. On rappelle que dès vendredi, notre pays est menacé par des taxes de 31% sur les produits qu'il exporterait aux États-Unis. L'avenir du Forum de Davos et son rayonnement pour la Suisse en question, remarques déplacées à des collaboratrices, notes de frais qui interrogent, études manipulées. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, est dans la tourmente depuis avril. Il avait alors démissionné de son poste de président. Une affaire qui fragilise l'institution du WEF et dans la foulée, faut-il s'inquiéter pour la tenue de sa réunion annuelle à Davos ? Pas de raison de s'alarmer trop vite pour Fabio Regazzi, conseiller aux États du Centre Tessinois et président de l'Union Suisse des Arts et Métiers.
C'est une situation qui peut nous rendre inquiets parce que c'est un dégât d'image pour cette manifestation qui est mondialement reconnue. Mais je suis confiant qu'à la fin, ça va se résoudre, l'intérêt aussi de la Suisse.
Qu'est-ce qui vous rend si confiant ?
J'ai toujours l'impression que les personnes sont importantes, mais les organisations, les institutions le sont davantage. Ce n'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec des personnalités qui sont tout à fait importante pour une organisation, mais qui, à la fin, quand ils vont à la retraite ou pour une raison ou pour l'autre, les institutions continuent. Et moi, je pense qu'à la fin, ça va jouer.
Des propos recueillis par Phileas Autier. Période estivale ne rime pas avec répit pour les agriculteurs. En plus du travail quotidien au champ ou auprès des animaux, les petites et grandes exploitations suisses sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Les horaires à rallonge et des salaires jugés peu attractifs pour les travailleurs étrangers font partie des explications. Cette réalité pèse lourd sur le moral des exploitants, comme l'explique Jean-Pierre Valente, directeur de Terre Emploi, dont la mission est de faciliter ce processus de recrutement.
pour certains agriculteurs, l'absence de main-d'œuvre devient un frein au quotidien, hein, et puis surtout parfois une source d'épuisement ou d'abandon. C'est un enjeu majeur car on ne peut plus se permettre d'ignorer qu'il y a une détresse humaine derrière tout ça. Mais après, moi, ce que je précise aussi, c'est que chaque exploitant a aussi un rôle à jouer pour rendre son exploitation plus attractive et puis pérenniser ses emplois parce que les exploitants sont quand même des indépendants.
Jean-Pierre Valente avec Camille Besse. En cyclisme, Lorena Vibes a remporté hier la 4e étape du Tour de France à Poitiers, une 2e victoire consécutive pour la Néerlandaise. Sa compatriote Marianne Vos conserve le maillot jaune. Aujourd'hui, le peloton parcourra la plus longue étape de la compétition sur 166 km jusqu'à Guéret. Temps souvent nuageux le long du Jura et des Préalpes, en partie ensoleillé sur le plateau. Le ciel sera plus généreux autour du Léman et en Valais. Quelques averses isolées possibles en seconde partie de journée. Le thermomètre affichera cet après-midi 24 degrés à Nyon, 22 à Bienne jusqu'à 25 degrés à Sion. Pour demain encore, dégagé le matin, puis de plus en plus nuageux. Des orages seront à prévoir.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Un pianiste en pleine ascension, l'école russe par ce jeune virtuose qui fait carrière à l'Ouest, Alexander Malofeev est attendu au festival de Verbier. Il a choisi d'illustrer différentes facettes de son répertoire centré sur le romantisme et le XXe siècle, avec notamment Schubert, Kabalevski et Franz Liszt. Alexandre Malofeev en direct de Verbier, c'est jeudi 31 juillet à 19h30 dans l'été des festivals et disponible ensuite en réécoute sur Play RTS. À tout bientôt sur RTS Espace 2.
La petite compagnie en nouvelle diffusion. Juliette Granier.
Bonjour. Aujourd'hui, dans cette première heure de La Petite Compagnie, eh bien, ce sera très français. Bizet, Ravel, Fauré, Debussy. Et puis, un peu américain aussi, avec l'écrivain Douglas Kennedy, au micro de Mélanie Croubalian, que l'on écoutera parler vers 9h45. Tout de suite, Ma mère loi. Ou comment, avec le petit poussé, chercher son chemin dans la vie, un chemin sinueux. Thank you. Un petit poussé ici, incarné par Claire Désert et Emmanuel Strausser, Ma mère Loi de Ravel, version piano à quatre mains. Voici maintenant trois petites évocations de la suite pour piano, dite Dolly, comme le personnage d'Anna Karénine, Dolly. Suite pour piano donc de Gabriel Fauré, cette fois-ci deux hommes, Éric Lesage et Alexandre Tarot, deux pianistes français. On va écouter d'abord Miaou, donc un petit chaton, ensuite Le jardin de Dolly et enfin Kitty Valls.
Thank you.
La musique de Fauré, ici avec Éric Lesage et Alexandre Tarot. Pour cette suite dite Dolly, on écoutait Miaou, Le Jardin de Dolly et Kitty Valls. Et puis voici un quatuor qui a été dédié à Eugène Isaïe, le grand violoniste et compositeur. C'est un quatuor avec piano de Fauré et qu'il a travaillé entre autres chez nous, entre Lausanne et Zurich, c'était entre 1903 et 1906. Lui aussi, il avait d'ailleurs des accès de surdité, comme Beethoven. Et c'est un quatuor qui a donc été créé finalement à Bruxelles. Il y avait Fauré au piano et le quatuor Isaïe qui l'accompagnait. Eh bien, on va l'écouter ici avec Michel D'Alberto au piano, à l'alto Gérard Cosset, et puis violon et violoncelle, les frères Capuçon.
Thank you.
musique de chambre de Gabriel Fauré avec cette amplitude tellement chaleureuse. Ici, on écoutait Michel D'Alberto, Renaud Capuçon, Gauthier Capuçon et Gérard Cousset dans ce premier quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle. Bizet maintenant avec Sir Thomas Beecham à la tête de l'Orchestre National de Paris dans cette très belle symphonie en ut dont on écoute l'adagio qui a quelque chose d'italien, vous verrez.
Thank you.
première symphonie de Georges Bizet, ici avec l'Orchestre National de Paris en 1959, et Sir Thomas Beecham à leur direction. On va écouter aussi une toute vieille chose très belle, c'est un extrait des Pêcheurs de Perles de Bizet, une histoire qui se situe à Ceylan, avec une très belle Leila, qui est une prêtresse qui doit se garder des hommes, et dont sont amoureux un prêtre et un jeune homme qui s'appelle Nadir, et qui est pêcheur. Et c'est une histoire qui finira mal. Mais au milieu, dans ce décor de Ceylan, on a cette très belle chanson qui s'appelle « Je crois entendre encore ». Et on l'écoute avec un homme qui s'appelle Alain Vinceau, qui était né à Monaco dans les années 30. Très très grande voix. On l'écoute ici avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris et Georges Prêtre, c'est un enregistrement de 1978.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de la mienne.
A été enregistré dans le sud par Jacques Terrasson, le pianiste de jazz, et Emmanuel Pahut à la flûte. Une petite revisitation de ce Jimbo's Lullaby, donc la berceuse de Jimbo, qui est un petit éléphant. C'est tiré d'un cycle de Claude Debussy, le Children's Corner. Auparavant, nous écoutions la voix d'Alain Vanceau, un ténor, dans Je crois entendre encore l'air tiré des Pêcheurs de perles de Bizet. Retrouvons Jacques Terrasson dans Maladie d'amour et ensuite nous écouterons au micro de Mélanie Croubalian Douglas Kennedy.
La petite compagnie, les écrivains nous parlent.
Je peux franchement de parler de l'écriture, parce que ça c'est franchement ma passion et aussi mon équilibre. Le truc, si on est écrivain, tout est de matériel. Même si on a eu une enfance difficile, même si on a grandi au milieu d'un mariage difficile, même si on était divorcé, j'ai fait tous les trois.
Tout ça c'est le tien, oui.
Mais dans mon écriture, tout est là-bas, mais caché. Mmh. Et ça me plaît énormément, le fait que je peux utiliser tout. Ici, chez Mirage, j'ai commencé de franchement réfléchir après mon divorce et peut-être deux, trois aventures après ça. Est-ce que c'est possible de vraiment connaître quelqu'un d'autre ou pas? Mmh. Surtout si c'est quelqu'un d'autre avec lequel on a créé une vie.
Et alors?
Oui. Si c'est l'amour. Et aussi, est-ce que l'amour, de temps en temps, un mirage? Aux États-Unis, on a vite l'idée de la tragédie. Et on pense, oui, on peut franchement trouver une solution.
Yes, we can.
Oui, yes, we can. Tout à fait. Et la vérité est une vie est un grand mélange des choses bienveillantes et aussi malveillantes. Mm-hmm. Et honnêtement, en fait, ma vie, d'une certaine manière, c'est un rêve, en fait.
En tout cas, une vie mouvementée, enfance à Manhattan, au milieu d'un couple qui ne s'entend pas. Vos parents?
Oui, en fait, mes parents, en fait. Et aussi, mon père a grandi dans un quartier prolétaire, populaire, de Brooklyn, et ma mère dans un quartier, franchement, petit, bourgeois. Donc, j'étais dans une très, très bonne école, peut-être le meilleur à New York Collegiate, à 40 élèves, 40 garçons par an, hyper intellectuels. On a appris le latin quand on avait, en fait, 13 ans. On a commencé de lire Shakespeare à 12 ans, Joyce, Milton, Henry James, Chekhov, 15-16 ans. Très, très compétitif. Mais en même temps, en fait, la plupart des gens là-bas étaient des garçons, en fait, des plutocrates. J'étais de la classe moyenne. J'ai grandi dans un appart 60 mètres carrés, en fait, 5 personnes. Et puis assez plus grande, mais très de la classe moyenne. Pour moi, ça c'était cool. New York, je n'étais pas très sportif, au contraire. Et le truc, mes parents se sont disputés tout le temps. J'ai écrit dans ma collection des nouvelles une nouvelle qui s'appelle Guerre froide. Et ça, c'est le seul moment dans ma carrière, mon œuvre, que j'ai écrit quelque chose 100% autobiographique.
Stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There's a light up ahead, I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the
just something you throw off the back of a train. Got a head for a lightning, a hat for a rain. And I know that I said I'd never do it again.
Long Way Home de Tom Waits, une idée de notre ami auditeur Stefano qui nous avait proposé, suggéré d'écouter Tom Waits en réponse aux propos de Douglas Kennedy. Vous avez suggéré ceci dit une autre chanson, Hong Hun. Moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me paraissait plus douce, plus en accord avec la voix de Douglas Kennedy, qu'on écoutait au micro de Mélanie Croubalian en 2018. thème emblématique de Rhapsody in Blue dans une adaptation pour un quintet à hanches, le Califax Reed Quintet. Vous écoutez La Petite Compagnie sur RTS Espace 2, il est 10h et les minutes d'info.